Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous jusqu'à midi, avec aujourd'hui Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Je vous ai abondamment, cité hier, hein, à propos de, à propos de votre blog et de votre papier sur McKinsey. Et je pense que vous allez nous en reparler.
Il est sur Sud Radio.
Voilà. Vous êtes avocat. Votre dernier livre, Une justice politique, est paru aux éditions L'Artilleur. Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image. Bonjour.
Bonjour.
Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir est, j'allais dire, est mort. Non, est publié aux éditions du Cerf. Et Pascal Jalabert, bonjour, journaliste politique et éditorialiste. Merci d'être avec nous. On va parler de Nicolas Sarkozy qui n'ira pas au meeting de Valérie Pécresse. Je voulais qu'on s'intéresse également à ces détenus radicalisés. C'est un article à lire dans le Figaro sur le profil inquiétant de l'assassin d'Ivan Colonna, qui est un détenu radicalisé et qui, depuis 9 ans, n'a fait l'objet d'aucun suivi. Et puis, Covid, faut-il remettre les masques, tous ces sujets avec vous, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Je vous rappelle qu'il n'y a plus de zapping de la présidentielle parce qu'il y a des temps de parole, des temps d'antenne, que c'est un casse-tête de malade. Je rends hommage à Quotidien qui, tous
c'est
les soirs...
C'est l'égalité parfaite.
C'est l'égalité parfaite, donc...
Si on parle d'un candidat une minute, il faut parler de tous les autres candidats.
C'est à peu près cela, et surtout, on a le droit de dire du mal, ce qui est quand même assez extraordinaire.
Ah bah c'est bien.
Et quand on dit du bien, voilà, donc c'est une usine à gaz, c'est un truc complètement ingérable.
On a le droit de dire, de dire plus de mal que de bien.
Oui, si vous dites du mal, ce n'est pas comptabilisé. Je le rappelle tous les jours parce que je ne me remets pas de cette règle complètement débile.
Oui, parce que quand on dit du mal d'un candidat, c'est qu'on dit, à contrario, du bien en même temps, du bien de d'autres. Enfin, c'est...
Oui, mais pas nommément. Pas nommément.
Oui, oh là là. On peut dire du mal de tout le monde.
Pas nommément, mais c'est vrai
d'ailleurs,
que
ça... D'ailleurs.
On peut être équitable dans notre traitement.
Et je pose la question, que fait-on quand des candidats ne veulent pas venir s'exprimer sur une antenne? Comment on est contraint par cette...
Ça vous arrive, ça?
Ça arrive.
D'accord.
Voilà.
Il y en a qui ne veulent pas venir sur une radio.
On donnera pas de nom.
Mélenchon ne veut pas aller chez Mediapart. Quelle surprise.
Bah voilà.
Mais voilà.
Voilà. Donc, je sais pas comment on fait. Mediapart est un réseau social. Donc, ça veut dire que ça ne compte pas.
Ils n'ont pas les
droits. Ça compte pas.
Ils n'ont pas.
Ah, c'est vrai, oui.
Et je rappelle que les candidats sont sur les réseaux sociaux, diffusent leurs discours. Enfin, c'est un peu absurde. C'est un peu comme les 500 signatures. Je pense qu'il y a des choses qu'il faudra peut-être revoir. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec Geneviève, un peu de légèreté.
Oui, c'est léger. Oui.
Enfin, écoutez,
léger et sombre à la fois. Oui, j'ai regardé hier la série sur Johnny.
Il paraît que c'est formidable.
C'est absolument formidable.
Ouais.
D'abord, vous revoyez effectivement toute sa vie, vous voyez ses failles, ses douleurs, ses souffrances. Je ne me souvenais pas qu'il avait été marié si souvent. Hein.
Ah,
donc,
si.
Ses amours, à chaque fois, il épouse.
À chaque fois.
Il en a quand même épousé pas mal. ses défaillances.
Adeline, deux fois. Hein.
Oui, absolument. Adeline, deux fois. Bon, Sylvie, il a failli divorcer, puis il est revenu. Enfin bon, c'est une vie conjugale compliquée, mais surtout son immense talent.
C'est la face sombre de Johnny, hein, dans ce documentaire, apparemment.
La face sombre, effectivement, ses addictions à l'alcool, à la drogue, mais aussi son immense talent, son rapport avec ses fans. Enfin, j'ai trouvé ça absolument merveilleux, plein d'émotions, plein de tendresse. Et moi, j'ai adoré, donc je le conseille.
Oui, j'ai une amie qui m'a dit la même chose, qui m'a dit qu'elle avait regardé tout d'affilée, que c'était vraiment remarquable.
Ça a été mon cas, j'ai regardé une partie de la nuit. Tout d'affilée.
Arnaud Benedetti, un coup de cœur.
Alors moi, c'est un coup de cœur. Alors c'est un coup de cœur pour un livre qui est sorti, alors très sérieux, hein, aux presses de Sciences Po. Alors on parle beaucoup de la campagne présidentielle en ce moment et du désintérêt parfois manifeste d'un certain nombre de nos compatriotes. C'est un livre qui est publié par un chercheur du CEVIPOF, Luc Rouban, qui s'intitule « Les raisons de la défiance ». C'est très intéressant parce qu'il explique que cette défiance est quand même, malgré tout, vis-à-vis du politique, assez spécifique en France, que c'est en France qu'on a toute enquête d'opinion et tout baromètre confondu, la plus grande méfiance vis-à-vis de la classe politique, beaucoup plus que chez nos voisins, que c'est en France où les taux d'abstention aux élections sont les plus forts, également. Et il essaye de comprendre les raisons de cette défiance. Alors parmi les raisons de cette défiance, il y en a une qui est assez évidente, c'est qu'il y a un sentiment, le sentiment qui se développe, c'est que l'État est aujourd'hui impuissant à bien évidemment répondre à un certain nombre de questions et de préoccupations des Françaises et des Français. Mais il a une autre explication qui est fondée en plus sur des données objectives, hein, sur beaucoup d'enquêtes. Le CVPOF fait beaucoup d'enquêtes et a de nombreux baromètres, donc tout ça est assez étayé. C'est qu'en fait, un grand nombre aujourd'hui de nos compatriotes considèrent que la politique ne fabrique plus d'avenir, l'idée qui était quand même de considérer que l'avenir serait meilleur pour leurs enfants qu'il ne l'était pour eux est une idée qui aujourd'hui n'est plus dominante, loin de là. C'est qu'on considère que finalement l'avenir de nos enfants sera plus difficile que celui que le nôtre. Ça, c'est un point important. Et un troisième point qui est mis en avant par Rouban, c'est que en fin de compte, la République ne reconnaît plus, le sentiment que la République ne reconnaît plus, que l'État ne reconnaît plus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dissociation entre la volonté d'équité des Français, qui est très forte, hein. On sait que la passion française pour l'égalité, c'est un vieux sentiment, et ce que les élites de la République rendent aux Français dans leur reconnaissance. Donc, tous ces éléments expliquent aujourd'hui, finalement, le désamour, dont on verra s'il est confirmé lors des prochaines élections présidentielles avec le taux de participation, qui est quand même un très bon indicateur, qui montre quand même cette défiance grandissante. Donc c'est un ouvrage très étayé, 120 pages. Pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, je le recommande.
Très fortement. Bien, donc ça s'appelle Les raisons de la défiance. Pascal Jalabert, un coup de gueule.
Oui, un coup de gueule contre les parlementaires, même s'ils ne siègent plus, puisque avant de partir...
Au Sénat, ils siègent.
Oui, c'est vrai, le Sénat siège encore, mais les députés ont augmenté de 3,4% la valeur locative. Alors, comme ça paraît abstrait, mais la valeur locative, c'est ce qui sert à calculer la taxe foncière. Donc la taxe foncière que paient tous les propriétaires. Mmh. Et rappelons que parmi les propriétaires en France, il n'y a pas que des gens riches. Oui. Il y a des familles modestes, il y a des retraités modestes. Donc la valeur locative a augmenté de 3,4%, ce qui veut dire que mécaniquement, la taxe foncière va augmenter. Et pire que ça, comme beaucoup de collectivités locales ont appliqué des taux, alors c'est un peu complexe techniquement et financièrement, mais bref, ils vont tous aussi appliquer des taux en augmentation parce que c'est le début du mandat, eh bien les Français recevront la facture au mois de septembre ou au mois d'octobre, selon les départements, avec une taxe foncière en forte hausse cette année.
On sait donc, de combien à peu près ? Est-ce que ça va représenter pourcentage ?
Tout dépend en effet des communes des départements, puisqu'après c'est chacun qui est très variable.
Ouais.
Mais déjà, à minima, 3,4%. Et après, on va voir ce qu'ont ajouté chaque collectivité locale qui ont terminé de voter les budgets, puisque c'est jusqu'au 31 mars que l'on vote les budgets. Donc, au moment où on parle de pouvoir d'achat, au moment où on donne 18 centimes pour les carburants, des parlementaires votent une hausse de la valeur locative. Et en plus, cet argent, il va dans la caisse des collectivités locales. Donc, la faute, les citoyens mettront la faute sur les élus locaux et pas sur les parlementaires. C'est assez hypocrite.
Ouais. Alors, qui l'a voté d'ailleurs ? La majorité, évidemment.
La majorité l'a voté et on n'a pas trop entendu les oppositions sur le sujet parce que tout le monde était dans sa circonscription à faire campagne. Donc c'est passé inaperçu. C'est pour ça que c'est bien d'en parler ce matin parce que c'est quand même un mauvais coup aux propriétaires les plus modestes. Hein. Alors c'est vrai que celui qui a des gros revenus, il ne le verra pas passer.
Oui, mais milliers de propriétaires. Il y a plein de petits propriétaires.
Il y a plein de petits propriétaires, des retraités modestes qui sont propriétaires, des Français modestes qui héritent de propriétés. Et donc, ça fera au mois d'octobre une baisse du pouvoir d'achat avec cet impôt qui est payé quand même par quasiment 35-40 millions de Français.
Il y a apparemment des grandes différences en ce qui concerne la hausse de la taxe foncière entre les villes. J'ai vu des hausses prévues très, très, très hautes, par exemple à Nantes, à Tours, dans des villes comme ça, et d'autres beaucoup moins.
Oui. Régis, vous allez faire votre coup de gueule parce que je pense qu'on va en discuter évidemment après le journal. Moi, j'avais un petit coup de gueule contre l'équipe de France qui s'est rendue à Lille, en avion 300 km entre Clermont. Ouais, en jet privé. en jet privé. Entre Clairefontaine et Lille, il y a 300 km. Eh ben, ils ont pris l'avion. Donc voilà, c'est, on a Kylian Mbappé qui, d'un côté, refuse de s'afficher avec des sponsors parce que c'est de la malbouffe, etc. En revanche, l'écologie, ils s'en foutent un peu. Non, vous ne trouvez pas ça choquant? 45 000 euros pour le jet.
Surtout qu'en train, c'est
pas eux qui décident, hein, c'est pas les joueurs. Hein.
Non, c'est pas les joueurs.
Non, c'est la fédération.
Non, mais enfin, les joueurs pourraient. Enfin, ils pourraient avoir une petite conscience en disant, mais enfin, c'est absurde, Lille, c'est une heure de train ou de car ou de ce que vous voulez.
3 heures de bus.
Ouais. Bah, c'est surtout, c'est surtout les dirigeants de la Fédération française de football qui pourraient y réfléchir.
Puis quand on compte le temps de se rendre au Bourget, voilà, d'embarquer dans l'avion, d'arriver à l'aéroport de Lille, de débarquer, de reprendre un bus.
Bah, on met peut-être plus de temps.
Ouais,
c'est plus confortable. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio et je crois qu'on va reparler de McKinsey. Mon petit doigt me dit ça.
Ah bon ?
Ah oui, allez, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Régis de Castelnau, avocat, votre blog Vue du droit, votre dernier livre Une justice politique est paru aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, vous êtes communicante. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir est paru aux éditions du Cerf. Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste. On va revenir sur le profil inquiétant de l'assassin d'Ivan Colonna. Que faire des détenus radicalisés? En 9 ans de détention, il n'a jamais été évalué. On en reparle avec vous. Faut-il remettre les masques? Nicolas Sarkozy n'ira pas au meeting de Valérie Pécresse. Et puis un auditeur, Stéphane, m'alerte sur l'interview à l'instant du président de la commission de régulation de l'énergie qui dit chauffez un peu moins, éteignez la lumière, roulez moins vite. Les restrictions énergétiques risquent d'arriver plus vite qu'on ne le pense. Mais on n'aura pas le temps de traiter tous ces sujets. Alors, Régis de Castelnau, un coup de gueule. J'ai lu votre blog sur McKinsey, où vous dites, prenons au mot Emmanuel Macron, qui dit, si vous n'êtes pas content, allez au pénal, qu'ils aillent au pénal. Et vous dites, il y a matière à aller au pénal pour McKinsey, c'est cela ?
Alors, je l'ai dit dans un article de mon blog, mais je l'ai dit également sur plusieurs réseaux, en vidéo, à Front Populaire aussi. Donc, effectivement, moi, j'ai regardé cette affaire avec l'œil du spécialiste, hein, je le revendique un peu quand même, et donc je considère qu'il y a de très lourds soupçons d'infractions pénales multiples. Hein. Donc, vraiment, il y a de grosses suspicions, et puis ça porte sur des sommes tout à fait considérables. Et qu'est-ce que je constate ? Je constate que malgré ce qu'a dit le chef de l'État, que ça aille au pénal, qui est-ce qui doit réagir à ça? C'est le parquet. Et d'abord et avant tout, le PNF. Et le PNF ne bouge pas, dort paisiblement, continue de se déconsidérer et ne fait rien. Alors, stop. Si, le PNF, il bouge. Il a bougé en urgence contre Fabien Roussel pour ses 2000 euros par mois. Il a obtenu l'aggravation des mises en examen pour une affaire qui dormait depuis 5 ans, les comptes de campagne de Mélenchon en 2017. Et hier, on apprend qu'il y a une affaire lancée, nous dit-on dans la presse, parce que la presse a été informée, contre Laurent Wauquiez, parce que ça concerne la ville du Puy-en-Velay. J'ai jeté un coup d'œil sur ça, et ça ressemble à du cloche-merle. Laurent Wauquiez n'est pas concerné, mais on le met en cause. Et naturellement, le PNF a démarré tout de suite, au quart de tour, audition et perquisition à grand spectacle. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont une torpeur qui est éminemment sélective. Je viens d'écouter les infos, là, et je me dis, tiens, c'est curieux. 25 janvier 2017, le Canard Enchaîné publie un article sur l'emploi d'attaché parlementaire de Pénélope Fillon. C'est un mercredi. À 11h, le PNF ouvre une enquête préliminaire et on sait ce qu'il en est advenu derrière. Ce matin, le Canard Enchaîné publie un article accablant concernant ces questions d'optimisation fiscale qui sont probablement de la fraude fiscale, sur les carences de contrôle, sur le fait que Bercy a fermé les yeux, et ça ne peut être que volontairement. Il est 11h06, aucune enquête préliminaire n'a été déclarée par le PNF.
Il y a une conférence de presse qui est annoncée. Olivier Dussopt et Amélie de Montchalin tiendront une conférence de presse pour répondre aux accusations contre le gouvernement dans l'affaire McKinsey. Ce matin, Bruno Le Maire était invité chez nos confrères d'Europe 1 et Sonia Mabrouk lui a posé la question de savoir si Bercy avait effectivement été pour le moins laxiste et il n'a pas répondu. Il a répondu par d'une indignation en disant qu'Emmanuel Macron était celui qui avait lutté contre les fraudes des GAFA, l'optimisation fiscale, etc. Mais il n'a pas répondu sur le fond. Donc on attend avec impatience cette conférence de presse, Pascal Jalabert.
Mon coup de gueule, allez, c'est sur le comportement des magistrats. C'est-à-dire que la France commence à ressembler de plus en plus à une république bananière et ce qui le permet, hein, ce qui est la clé de cette dérive, c'est le comportement d'une partie de la magistrature et je pense en particulier au PNF.
Mais ils ne sont pas censés être indépendants ?
Non, le parquet n'est pas indépendant, mais ce n'est pas une question d'indépendance. Ils ont fait élire Emmanuel Macron en 2017 en liquidant politiquement la candidature de Fillon. Hein, et là, ils continuent à le soutenir. C'est tout. C'est aussi simple que ça.
Je ne vais pas me placer sur le terrain politico-judiciaire. On va quand même laisser le temps aux magistrats de regarder le dossier. Mais dans cette affaire, il y a trois points qui interpellent. Le premier, c'est le fait que quand même le directeur des études d'En Marche soit celui qui ait traité les dossiers chez McKinsey. Il est passé chez McKinsey après la campagne, et c'est lui qui traite les dossiers. Premier point. Deuxième point, c'est la qualité des rapports fournis. Absolument. Sur ce qu'on en a vu pour le moment, il y a du copier-coller, il y a de grosses banalités, bref, des rapports qui ressemblent qu'auraient pu faire des étudiants de troisième cycle de la Sorbonne ou de Paris Dauphine. Voilà. Et surtout, le plus scandaleux, c'est que quand même l'État français...
Ils font mieux à la Sorbonne.
Oui, mais ils ont le plus scandaleux, c'est que l'État français forme des hauts fonctionnaires. On a quand même l'État, on a l'INP, on a des facultés de haut niveau.
Il faut aller chercher
un cabinet de consultants international pour faire leur boulot. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. On a ces compétences-là, y compris sans doute à Bercy, y compris dans nos universités, et on va chercher un cabinet international qui prend une commission très importante et qui, en plus, ferait de l'optimisation fiscale. Donc là, il y a un gros dysfonctionnement. Et de la conférence de presse, on peut attendre des explications là-dessus, plus que des indignations sur le côté fiscal.
Un milliard d'euros pour 2021.
Geneviève, je veux juste apporter une précision. Un milliard d'euros.
Sauf que le sénateur dit qu'en fait, ils ont travaillé sur 10% des administrations et des opérateurs publics. Donc, un milliard, c'est le bas mot. C'est le bas mot. C'est peut-être beaucoup plus à ce stade. On n'en sait rien.
C'est potentiellement une énorme affaire
qui sort très tard dans cette campagne présidentielle.
Oui, qui sort tard et qui a mis du temps.
Et qui a mis du temps. Justement parce qu'elle sort tard.
Oui, et qui a mis du temps à prendre dans les médias et dans l'opinion publique. Et là, conférence de presse, ça prouve qu'il y a quand même le feu au lac, comme on dit. Pardon, Régis.
Sur la célérité sélective des magistrats. L'affaire de Puy-en-Velay, avec campagne de presse qui a commencé hier, avec des perquisitions, etc., la plainte date d'il y a 3 semaines. Ouais. Ils se sont immédiatement saisis. Faut pas nous prendre pour des imbéciles quand même. La deuxième observation, c'est que la commission d'enquête a commencé à travailler depuis un moment. Les auditions ont été répercutées, y compris le faux témoignage probable du patron qui avait bafouillé, c'était dramatique, du patron de McKinsey. Donc, les magistrats sont informés depuis 3 ou 4 mois. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et si on dit ça arrive tard dans la campagne, c'est justement parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, hein, et que aujourd'hui ils continuent à refuser catégoriquement de le faire. J'ai quelques contacts avec l'étranger, hein, l'image du fonctionnement des institutions de notre pays, l'image de scandale pas, ouais. est dramatique.
Mmh. Oui, mais il y a plusieurs choses, hein, dans l'affaire McKinsey. Il y a l'optimisation fiscale. Ou le non-paiement d'impôts, je ne sais pas comment ce sera qualifié. On m'envoie la dépêche à l'instant, effectivement, de l'interview de Bruno Le Maire qui dit « Nous n'avons pas de leçons à recevoir en matière de lutte contre l'optimisation fiscale. »
Il y a quand même un problème. Les déclarations de Le Maire sont extraordinaires. Notamment, il y a une semaine, je crois, il intervenait sur d'autres ondes. Il dit qu'il n'était pas au courant. Mais je suis désolé, mais quand vous... Il me semble bien, je parle sous le contrôle d'un avocat. Mais quand vous vous soumettez à un appel d'ordre, offre le code des marchés publics contraint celui qui se soumet à l'appel d'offres à présenter un document, une attestation fiscale, me semble-t-il.
Donc, mais ça sinon, on ne peut pas attribuer.
Bercy était au courant. Alors, bien sûr, ils étaient au courant qu'ils étaient... prétendument en règle avec le fait d'acquitter l'impôt sur les sociétés. Mais moi, je suis quand même très surpris que... Alors qu'on sait qu'en plus que McKinsey... Le rôle de McKinsey est critiqué depuis très longtemps avec la crise sanitaire. Donc ça veut dire que personne à Bercy ne s'est quand même inquiété de savoir si McKinsey payait l'impôt sur les sociétés en France. Ouais. Donc c'est quand même un problème.
Ça ne tient pas debout.
C'est quand même problématique.
Alors Bruno Le Maire a assuré qu'une vérification fiscale avait été lancée par Bercy à l'encontre de McKinsey avant le rapport du Sénat publié mi-mars. Il dit qu'ils s'en sont préoccupés avant. Qu'est-ce que ça peut faire, cette affaire? Alors là, on parle plus d'un point de vue politique.
Politique, Arnaud, si vous voulez, moi, je partage ce que vous dites, c'est-à-dire que ça a mis du temps à percoler, quand même, parce que le Sénat a fait sa conférence de presse il y a maintenant une dizaine de jours, à peu près, je crois. Donc ça commence, en effet, à devenir un sujet de controverse et de polémique. En effet, je rejoins tout ce qu'a dit Pascal, c'est-à-dire que les chiffres sont assez, quand même, ahurissants. Le fait que, quand même, en France, on dispose de corps d'inspecteurs. Il y a les inspecteurs des finances, il y a les inspecteurs d'éducation nationale. Il y a eu un rapport sur l'enseignement qui a été fait, sur la modernisation de l'enseignement, qui a coûté près de 500 000 euros. Il devait d'ailleurs y avoir un colloque à la clé. Le colloque ne s'est jamais tenu. Quand vous lisez les extraits du rapport, en effet, c'est des copier-coller de documents, de passages que vous trouvez dans des documents officiels. Donc ça veut dire que les rédacteurs du rapport McKinsey ne se sont quand même pas tellement fatigués, et mis à part de faire du copier-coller. Donc tout ça dépasse l'entendement. Je pense qu'en effet, il y a eu à un moment donné un abus dans l'usage des cabinets,
On serait dans une campagne présidentielle normale, avec une campagne présidentielle, avec des sujets de campagne présidentielle, avec une vraie campagne, avec des débats de campagne présidentielle, je pense que ça prendrait très très fort. Là, on n'est pas dans une campagne présidentielle.
Je pense que pour que ça prenne maintenant très fort, il faudrait en effet, là je rejoins Régis, qu'il y ait une convocation d'un dirigeant de McKinsey, voire d'un politique, pas forcément Macron d'ailleurs, du tout, voire d'un politique, on ne peut pas, de toute façon, chez les juges, ou au moins des auditions par le SRPJ, des choses comme ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éclaircissements à demander qui, en effet, peuvent relever du pénal.
Il y en a un qui relève du pénal. Voilà. Le directeur général adjoint de McKinsey a précisé qu'il payait les impôts sur la société. Donc le Sénat, la commission d'enquête au Sénat, a transmis au procureur de la République, parce que tout simplement, il témoigne sous serment, et qu'en l'occurrence, il a menti à la représentation nationale.
Mais lisez pardon de refaire encore de la pub pour vous, cher Régis de Castelnau, sur votre blog, vous expliquez en quoi ça relève du pénal. C'est très bien argumenté.
Il y a plusieurs infractions qui sont, à mon avis, où le soupçon est plus que lourd, quoi.
Oui, c'est ce que vous dites. On va voir la conférence de presse et peut-être que le parquet national financier vous aura entendu d'ici midi, on verra. On se retrouve dans un petit instant, on marque une pause et on se retrouve avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous jusqu'à midi, avec Régis de Castelnau, Geneviève Gottsinger, Arnaud Benedetti et Pascal Jalabert. Je ne sais pas quel sujet on va traiter, j'aurais pu vous demander avant. Nicolas Sarkozy n'ira pas au meeting de Valérie Pécresse, ça vous étonne, Geneviève Gottsinger?
Non, mais quel manque de classe quand même. Franchement, il y a un moment où c'est Judas, voilà. Et c'est le coup de grâce.
Oui. Ouais. Vous pensez que, comme François Hollande, qui lui soutient Anne Hidalgo malgré le fait qu'il...
Il aurait dû faire pareil. Enfin, il reste une figure tutélaire de la droite. Là, c'est vraiment le coup de poignard dans le dos à la candidate de la droite. Je trouve que c'est pas normal. Ouais. Enfin, moi, ça me choque un peu. C'est quand même un ancien président de la République qui donne l'impression de régler ses comptes. Oui, elle a soutenu Juppé à la primaire en 2017, mais elle a quand même été sa ministre, et pas une si mauvaise ministre
que ça,
mais une bonne ministre, c'est sa famille politique. Certes, elle a commis des maladresses, certes, elle affiche peut-être un petit peu trop la personne de Jacques Chirac et l'attachement au chiracisme. Elle a eu des propos comme la référence au Karcher qui n'est pas beaucoup plu à Nicolas Sarkozy, mais franchement...
Pourtant, c'était fait pour lui plaire.
Elle est assez maladroite.
Pascal, ce qui différencie la droite et la gauche, c'est que souvent, à gauche, il y a des fractures et des haines idéologiques, et à droite, c'est plutôt des haines de personnes. Donc là, on est plutôt dans ça. Voilà, ils ne se portent pas dans leur cœur, donc voilà. Petite différence avec François Hollande, c'est que François Hollande, lui, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais de faire la politique. Il a toujours fait ça, il ne sait faire que ça. Et voilà. Et si c'est investi en Camille Hidalgo, c'est en pensant qu'il peut encore jouer un rôle derrière, ce qui d'ailleurs irrite beaucoup les jeunes élus socialistes qui lui reprochent quand même d'avoir mis à bas le parti.
Oui.
Je ne suis pas sûr que le soutien de Nicolas Sarkozy ait changé la donne, mais ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il ne la soutienne pas ne l'arrange pas dans le climat et dans le contexte dans lequel elle se trouve. Non. C'est vrai que c'est assez finalement surprenant, mais ça fait déjà plusieurs semaines que la rumeur circule que Nicolas Sarkozy soutiendrait plutôt le président sortant, Emmanuel Macron. Donc on peut penser qu'en fait, Nicolas Sarkozy ne va pas donner de consigne de vote au premier tour de cette élection présidentielle. Ça paraît à peu près sûr maintenant qu'il appellera à voter au second tour pour Emmanuel Macron face au candidat auquel sera opposé Emmanuel Macron. Alors évidemment, si c'était Valérie Pécresse, là ça poserait problème pour Nicolas Sarkozy. Mais enfin, apparemment, vu les intentions de vote, c'est pour l'instant assez peu probable comme hypothèse. Ouais. Mais face à Marine Le Pen ou à Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy prend aucun risque. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Oui.
Alors, je voudrais justifier un petit peu, un petit peu prendre la défense de Nicolas Sarkozy. Il a été beaucoup trahi.
Oui, c'est vrai.
Et effectivement, alors il est un peu rancunier,
on comprend,
et surtout que
il a trahi
Chirac en 95.
C'est un homme libre et elle a pas été. Elle n'a pas été déjeuner. Valérie Pécresse très 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 supportive, on va dire, de Nicolas Sarkozy. Elle n'a pas été très respectueuse de lui non plus.
De choses. Il a été beaucoup trahi. Rappelez-vous le déjeuner Jouyet pour Fillon, etc. Bon, toujours est-il que aujourd'hui. Effectivement, il n'y a pas tellement d'enjeux. Alors, on dit beaucoup, et je souscris un peu à ça, que le soutien à Emmanuel Macron, pas oublier qu'il avait envoyé des avant-gardes, il y a Eric Woerth qui y avait été, d'autres encore, on dit beaucoup qu'il aurait passé un accord avec Emmanuel Macron pour essayer de se débarrasser autant que faire se peut de ces ennuis judiciaires qui sont devenus lourds avec les décisions de première instance.
Mais la justice est indépendante.
Oui,
c'est ça. Oui.
Cette époque est terminée, Régis.
Non. Mais bien sûr, mais l'indépendance ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'impartialité. Si l'indépendance est l'outil de l'impartialité, or cette justice est totalement politique. Bon, c'est le titre de mon livre d'ailleurs. Bon, deuxième observation. Alors, effectivement, on peut dire que Valérie Pécresse n'a pas aidé Nicolas Sarkozy. Moi, personnellement, je trouve que après avoir un peu comme tout le monde ricané au début de sa campagne, après son meeting calamiteux, je trouve qu'elle est assez courageuse. Elle se bat dans un contexte difficile. Elle tient la barre pour ce qui la concerne. Vrai. Je lui tire un peu mon chapeau, et ce d'autant, peut-être faire plaisir à Valérie, que comme par hasard et comme d'habitude, pointe un certain nombre de réflexes sexistes un petit peu. Il y a un côté misogyne dans la façon dont elle subit aujourd'hui. Et donc, elle a ma sympathie. Mais attention, je ne vais pas voter pour elle, soyons clairs.
Ah. Oui, moi je trouve ça misogyne et sexiste de dire ça. C'est-à-dire que vous êtes une femme, vous y allez comme les autres, non ?
Non, ce que je veux dire, Valérie, bien sûr.
On a déjà eu le débat ici, oui.
Elle se bagarre, etc. Non, mais pour, si vous voulez, sur les réseaux sur lesquels je suis assez fréquemment, il y a ce petit côté-là. En plus, c'est tout, hein, c'est tout ce que je dis. Non. Écoutez, on a combien de candidates, 4 ou 5
On n'a pas sur Le Pen, hein. Le côté sexiste ne fonctionne pas. Alors pourquoi ?
Non.
Voilà.
Ouais, ça, c'est une vraie question.
On peut quand même s'étonner aussi.
Parce qu'elle a mieux la fonction de candidate.
Et alors, non, Le Pen, elle a l'avantage, c'est que finalement, c'est sa troisième candidature.
Ouais.
D'ailleurs, moi, je constate que ceux qui font aujourd'hui la meilleure campagne, finalement, ce sont ceux qui ont l'expérience de la campagne. C'est-à-dire Mélenchon et Le Pen.
Ils ont deux atouts. Ils ont une marque et un récit. Valérie Pécresse, depuis le début,
oui, c'est vrai.
Depuis le début, son problème et sa difficulté, c'est que, c'est pas elle. Elle s'est mise à parler comme Éric Ciotti. Oui. C'est pas Valérie Pécresse. Elle a ressorti le programme de François Fillon. Valérie Pécresse. Elle a parlé du Karcher. C'est pas Valérie Pécresse. Elle n'a pas réussi à construire un récit, à imposer une marque.
Alors
qu'elle avait fait une très belle campagne pour les élections régionales. Je vais vous dire juste un détail. Pendant les régionales, en discutant un peu par-ci par-là dans les bistrots de Paris, les gens disaient Valérie. Mmh. Voilà. Et là, Pécresse. Et ça change tout sur la perception. Alors vous allez me dire, c'est un détail. Non,
non c'est
ça
pas
change
un détail.
La perception. Non. Elle n'a pas réussi à construire ni une marque, ni un récit, alors que la marque Le Pen, la marque Mélenchon, la marque Macron, elles sont déposées depuis longtemps. Et elles sont dans une continuité. Et dernier point, un fonctionnement professionnel. Moi, je n'ai pas beaucoup vu Christian Jacob pendant cette campagne. Gérard Larcher, pas beaucoup. Bruno Retailleau, un minima. Elle n'a quand même pas été très, très soutenue.
Non, elle n'a pas été très soutenue par son camp.
Xavier Bertrand était
très soutenu.
Xavier Bertrand qui a le mieux fait le job. Ouais. C'est vrai.
Est-ce qu'on peut obliger Nicolas Sarkozy à soutenir une candidate qu'il n'apprécie pas ?
Par rapport, pour rebondir, sur ce qu'a dit Pascal, c'est vrai qu'elle avait quitté LR à cause d'une ligne politique qu'incarnait LR à ce moment-là. Ouais. Et aujourd'hui, elle fait sa campagne sur cette ligne politique qu'il avait autrefois conduite à quitter LR. Et là, il y a une absence de logique.
Le problème, c'est la marque. Alors, il y a la marque Pécresse qui est problématique aujourd'hui. Mais c'est la marque LR qui pose problème. Parce que le soupçon d'insincérité qui pèse sur Valérie Pécresse, c'est un soupçon d'insincérité qui est beaucoup plus large, qui pèse aux yeux d'une grande partie de l'électorat de droite sur les LR. Les LR ont été au pouvoir et on considère, dans un certain nombre de segments de cet électorat, que chaque fois qu'ils ont été au pouvoir, ils n'ont pas fait la politique pour laquelle ils avaient été élus. Donc elle hérite aussi, d'une certaine manière, de cette perception. Valérie Pécresse, et puis l'autre sujet qui est lié au LR, c'est que les LR n'ont jamais résolu leur problème de positionnement politique depuis 5 ans, entre Emmanuel Macron, qui leur tond la laine sur le dos, et de l'autre côté, la droite Le Pen zémourienne, qui a quand même une capacité d'attraction très forte sur une partie de son électorat. Vous savez, vous êtes capable de me dire quelle est l'identité des LR aujourd'hui ? Moi, je ne suis pas capable.
C'est ça, s'il n'y a pas de marque, il n'y a pas de récit.
Voilà.
Non, c'est effectivement, il n'y a pas de récit. On va marquer une petite pause et on va revenir sur ces détenus radicalisé comme l'assassin d'Yvan Colonna, le meurtrier d'Yvan Colonna, Franck Elong Abbé. Il y a plusieurs articles aujourd'hui dans la presse qui interpellent et qui posent un certain nombre de questions sur cet homme et sur le fait qu'il n'ait jamais été évalué ni pris en charge.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Alors, une enquête antiterroriste sur l'assassin d'Yvan Colonna nous apprend qu'il y a eu 10 commissions pluridisciplinaires uniques qui se sont tenues entre le 17 octobre 2019 et le 24 janvier 2022. Donc, 10 commissions sur le détenu qui a tué Yvan Colonna. Ces commissions ont tiré le signal d'alarme sur l'enracinement radical de cet agresseur et il aurait dû être placé en quartier d'évaluation de la radicalisation, ce qu'on appelle un QER. Et cette recommandation clôture la dernière synthèse jamais étudiée en QER à préconiser. Donc, c'est ce qui était préconisé. Et donc, il a par ailleurs à plusieurs reprises exprimé l'idée qu'il serait prêt à commettre un attentat, l'idée de mourir en martyr, en héros, d'être un grand pour l'islam, etc. etc. C'était un détenu qui était auxiliaire, c'est-à-dire un détenu autorisé à travailler dans la prison, qui pouvait se déplacer librement. Au-delà du cas particulier d'Ivan Colonna et du meurtre particulièrement sauvage dont on a aujourd'hui des éléments plus précis, on s'interroge sur le devenir de ces détenus particulièrement radicalisés et qui ne sont pas pris en charge.
Non, mais ce qui est très surprenant, si vous voulez, dans ce que vous venez de décrire, c'est que c'était quelqu'un qui était un ancien d'Afghanistan. Faut quand même jamais l'oublier.
Absolument.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était allé faire le djihad sur le terrain dans un pays qui épuisait, je veux dire, qui est quand même particulièrement dur.
Et qui a été extradé des États-Unis.
Qui a été extradé des États-Unis. Donc, qui n'est pas été identifié comme un détenu finalement radicalisé, est déjà en soi un dysfonctionnement majeur en la matière. Ensuite, l'autre point qui est quand même en effet totalement aberrant, c'est que non, ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y avait eu déjà des faits de violence.
Oui.
C'est-à-dire qu'il
n'était
pas à son premier fait de violence.
Absolument.
Il y avait eu déjà des tensions dans un certain nombre. Alors, je ne sais pas s'il a toujours été à Arles, mais ailleurs. Hein. Donc, ça aussi, ça pose problème. Ça aurait dû, à minima, alerter les autorités
pénitentiaires. Il était libérable l'année prochaine.
Il était libérable
en 2023.
Le plus important, c'est qu'il était libérable l'année prochaine. Alors, le point le plus paradoxal de cette affaire, c'est qu'il bénéficiait d'un statut d'auxiliaire.
Oui, libre de ses mouvements dans la prison.
Ben assez libre, oui, enfin, autant qu'on puisse être libre dans une prison. Mais enfin, il était, en effet, il avait un certain nombre de tâches qui lui étaient confiées, il était payé pour ces tâches, et notamment, on l'a laissé seul avec Ivan Colonna. Et je rappelle un dernier point, quand même, sur cette affaire, parce que les autorités corses l'ont dit à ce moment-là, il y a déjà depuis 2016 ou 2017, l'exécutif corse avait prévenu, les détenus corses étaient particulièrement ciblés par les détenus islamistes. Alors qu'on laisse un détenu islamiste avec Ivan Colonna pendant 10 minutes dans une salle de sport, ça pose question. Alors qu'est-ce qu'on en fait après ?
Sans aucun contrôle.
Sans aucun contrôle.
Caméras de surveillance sur lesquelles on voit absolument pas ce qui se passe.
Apparemment, si.
Sur le moment, je veux dire, il n'y a pas eu d'atteinte. Il y a des caméras de surveillance, donc même si vous êtes seul dans un endroit, elles fonctionnaient pas. Donc
Ah bon ?
Ouais. Elle fonctionnait, mais personne ne regardait.
On a vu l'opération de maintenance ou quelque chose comme ça.
Mais ce qui était alors quand on lit le rapport qui a été fait, ils s'entendaient plutôt bien avec Colonna. Ils avaient l'habitude de faire du sport ensemble.
Vous connaissez le phénomène de la dissimulation.
Absolument. C'est ce qui était souligné dans ces commissions, Pascal Jalabert.
Oui, alors on a tous les ingrédients: radicalisation, déséquilibre psychiatrique, violence. Voilà. C'est une défaillance majeure, un dysfonctionnement monumental du système carcéral français. Ce n'est malheureusement pas le seul. Et cette affaire montre que depuis des décennies, on met la poussière sur le tapis sur ce qui se passe dans les prisons. On n'a pas traité le sujet des détenus radicalisés. On n'a pas traité le sujet de détenus qui relèvent plus de la psychiatrie que du pénal. On n'a pas traité le manque de moyens global des prisons. Le fait de ne pas en construire, on mélange un peu tout le monde. Bref, un dysfonctionnement majeur. Alors, est-ce que cette affaire va permettre de le résoudre ? C'est peu probable depuis des années.
Regardez le père Hamel. Je veux dire, c'est pareil. La personne qui l'a assassiné se baladait avec un bracelet électronique.
Ouais,
finalement, à chaque fois, il y a une émotion. À chaque fois, il y a une colère. À chaque fois, il y a une analyse. Et puis finalement, rien ne change.
Il n'y a pas de responsable
parce qu'apparemment, il n'y avait plus de directeur dans cette prison. On était en situation d'intérim. Ce qui est quand même extraordinaire.
Il y en a eu précédemment. Je précise que dans ces rapport, il est dit qu'on attirait l'attention sur ce détenu et sur sa dissimulation, sur son aura sur les autres détenus. Voilà. Donc il avait quand même un certain nombre de choses qui auraient dû alerter. Alors Régis de Castelnau.
Alors, c'est une question qui a plusieurs facettes. Il y a une première facette qui est malheureusement la dégradation du service public de la justice, puisque l'administration pénitentiaire dépend du ministère de la Justice, qui est un des ministères, les plus pauvres, proportionnellement, de la République française. Deuxièmement, c'est une question effectivement assez délicate à traiter parce que c'est une délinquance qu'on traite comme une délinquance normale. Alors, il y a des qualifications de terrorisme, mais on est dans le cadre français et européen. Or, en ce qui concerne les regroupements, les déplacements de détenus, les conditions d'exécution des peines, on a un cadre qui est défini par des accords internationaux, qui est défini par la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est pas facile aujourd'hui, faute de moyens, avec des contraintes juridiques, de traiter ce problème-là. Moyennant quoi ça débouche, et il faudrait peut-être qu'on prenne à bras-le-corps, sur une catastrophe qui est effectivement le meurtre ou l'assassinat de d'Ivan Colonna, et je veux dire un problème politique majeur.
Ouais.
Je veux dire, ça a propagé un incendie à la Corse en pleine campagne électorale. Mmh. Alors, on a des surenchères de démagogie à droite à gauche, on a une crispation des souverainistes, etc. Tout est catastrophique dans cette affaire.
Et où est le garde des Sceaux? Beaucoup de nos auditeurs nous disent, silence assourdissant quand même d'Éric Dupond-Moretti, dont on rappelle qu'il avait été l'avocat d'Ivan Colonna. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas entendu et que depuis, ça fait quoi, trois semaines, plus que ça, ça fait plus d'un mois.
Il n'intervient plus sur le dossier des prisonniers corses, tout simplement parce qu'il a été avocat de Colonna. En tout cas, c'est ce qui explique.
Enfin, là, en l'occurrence,
je suis d'accord. C'est surtout qu'en plus, c'est un problème d'administration pénitentiaire,
absolument.
Donc qu'il faut détacher du problème. Mmh, en effet, j'allais dire au pénal. Mais c'est vrai que ce silence est assez assourdissant.
Mais lisez l'article dans le Figaro d'aujourd'hui qui est assez saisissant. Il y a quand même eu des conversations interceptées en 2020, où il parlait à son oncle en lui disant qu'il se renseignait pour savoir ce que sont devenus tous ses frères anciens combattants comme lui. Et il termine en disant qu'il sera un homme très occupé dehors, etc., etc. Donc il sous-entend et que les talibans sont un État à part entière.
Donc, de toute façon, la récidive était évidente. S'il était sorti, elle se serait produite à un autre moment.
Voilà, l'Afghanistan, c'est quand même là-bas. Que d'où sont revenus les djihadistes les plus violents, c'est-à-dire on les a appris à tuer, à dissimuler, à décapiter. Le suivi aurait quand même dû être beaucoup plus renforcé qu'il était.
Après, ça pose le problème aussi de la capacité de déradicalisation. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou pas? Est-ce qu'on peut déradicaliser ou pas? Ou est-ce qu'il faut, à l'inverse, finalement, assigner à l'isolement en permanence? C'est un vrai choix, quand même.
Il y a quand même une différence entre un détenu, entre quelqu'un qui s'est radicalisé sur la toile parce qu'il est mal dans sa peau, et quelqu'un qui a quand même passé plusieurs mois en Afghanistan au milieu de coupeurs de tête. C'est quand même pas tout à fait le même niveau.
Dans son cas, l'objectif, c'est de prévenir la récidive. On n'a pas su prévenir la récidive.
De radicalisation.
Vous voulez savoir où il est, Éric Dupond-Moretti? Hier, il était entendu par les magistrats de la CJR, par les magistrats de la Cour de justice, dans l'affaire des soupçons de prise illégale d'intérêt. Donc, il a usé de son droit au silence. Donc, voilà, il était peut-être occupé, mais c'est vrai que cet article m'a interpellé, en tout cas, parce qu'il n'est pas le seul.
Alors, il n'est pas silencieux, Valérie, il n'est pas silencieux. Ah. Il a fait une jolie vidéo.
Oui.
Tout souriant, où il dit il faut venir à l'aréna de Nanterre, soutenir le merveilleux Macron. C'était ridicule parce que tout le monde le connaît, c'est un avocat de talent, tout le monde le connaît, souvent en colère, grommelant, etc. Et là, il a essayé de prendre une image souriante et c'est bizarre, ça faisait curieux.
Ben là, il y a du rameutage pour l'aréna. Je sais que
on donne même des cadeaux.
Oui, on donne même des cadeaux effectivement pour que les gens viennent. On va marquer une pause. On va parler du Covid. Est-ce qu'il faut remettre les masques? Le vote? Faudra-t-il mettre un masque? Tous ces sujets avec vous dans un instant.
Sud Radio 10h midi. Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous, on va parler du Covid. Alors Régis, j'avais une question pour vous que posent nos auditeurs, je ne sais pas si vous aurez la réponse. Est-ce que des ministres ont le droit d'appeler à un meeting pour le candidat même manière que le Premier ministre était allé tracter au Rhin-Si, c'est légal ou pas?
Ça dépend quand.
Alors, le problème, on est en période électorale, donc tout contribution à cette campagne doit être identifiée et chiffrée d'ailleurs. Alors, ces ministres sont payés par l'État, ils ont une mission, mais ils peuvent être aussi, dans leur vie privée, ils peuvent être des militants. Le problème, c'est qu'ils utilisent, semble-t-il, les moyens de l'État pour se déplacer, pour assurer leur sécurité dans ces déplacements. Donc, il y a dans la pratique une espèce de devoir de réserve. Manifestement, celui-ci est violé. Hein, vous voyez, il faut trouver un équilibre. C'est pas, on va pas dire au ministre vous taisez pendant la
c'est
période.
C'est joliment dit.
Oui,
c'est joliment formulé, Régis. Ça.
Ouais. Mais c'est pas
alors,
illégal.
Si vous voulez, je vais pas être accablant là. Je vais pas être accablant parce qu'on va pas demander au ministre de ne pas soutenir leur champion. Ça c'est normal. Et puis ça ferait bizarre. En revanche, il faudrait qu'il soit quand même un peu plus discret à certains moments. Voilà.
Voilà, bon, d'accord, mais c'est pas illégal,
c'est pas illégal et puis voilà.
Ça peut le devenir hein, si c'est complètement, si vous voulez, quand Nicolas Sarkozy avait été en tant que président sortant à Toulon, hein, il avait été faire un déplacement de président et il en avait profité le soir pour faire un meeting. Et donc on avait mis à la charge de sa campagne une partie du coût du déplacement. Eh bien, ce compte a été rejeté parce qu'on considérait que la part mise sur le meeting et portée au compte de campagne était insuffisante. Ça lui a coûté 11 millions d'euros qui n'étaient pas remboursés et le Sarkoton.
D'accord.
Donc, ça peut faire l'objet de contrôle a posteriori de la Commission nationale des comptes de campagne.
Quelques mots sur le Covid. On voit que les mesures donc, ont été allégées, voire levées dans la plupart des lieux publics depuis le 14 mars. Le nombre de contaminations continue d'augmenter pour toutes les classes d'âge et dans toutes les régions. En revanche, le nombre d'hospitalisations ne baisse plus. Protocole sanitaire particulier pour les élections, c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, d'ici la fin de la semaine, il devrait y avoir peut-être des propositions qui seront faites pour les assesseurs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a levé un peu trop vite les restrictions?
On a changé de priorité, très clairement. Enfin, il y a quelques mois encore, on aurait vu ces hausses, cette tendance à la hausse du Covid. On aurait tous réagi différemment. Il y aurait eu peut-être de nouveaux confinements. Enfin, en tout cas, des mesures très drastiques. Là, franchement, on a appris à vivre avec le Covid. D'abord, ce variant est quand même moins dangereux. On a appris avec. On a changé de priorité. Il y a la guerre en Ukraine. Donc je pense qu'on vit ça de manière beaucoup plus sereine et qu'on sait tous qu'il y aura de nouveaux variants, il y aura de nouvelles formes de grippe, il y aura de nouveaux vaccins contre de nouveaux variants et voilà, quoi, c'est plus notre priorité.
C'est plus la priorité. Pascal Jalabert ?
Oui, en effet, je crois que tout a été dit. Ce variant est moins puissant. Les services d'urgence ne sont quand même pas débordés. Et les personnes qui sont hospitalisées en réanimation sont toujours des personnes qui, en majorité, qui ne sont pas vaccinés ou qui présentent d'autres carences médicales lourdes. Donc du coup, oui, c'est un virus un peu plus violent qu'une grippe, mais les Français, comme les Européens en général, se sont habitués à vivre avec. Et s'il faut mettre le masque, ça aussi c'est devenu un réflexe naturel. On met le masque dans les transports en commun, personne ne rechigne. Donc voilà, on est passé à autre chose. Normalement, ça ne devrait pas altérer le scrutin.
Mais ça désorganise quand même les entreprises. Il y a beaucoup de gens qui sont...
Ça désorganise avec les cas contacts. Les entreprises qui ont la possibilité de faire du télétravail, ça continue à fonctionner parce qu'aujourd'hui, les gens ne se mettent plus à l'arrêt maladie quand ils sont cas contact ou même quand ils sont infectés, qui n'ont que des symptômes très légers. Donc le télétravail fonctionne. En revanche, pour les entreprises qui n'ont pas le télétravail, oui, ça peut poser problème.
C'est compliqué.
Il y a, je vais citer deux cas de commerce qui sont fermés actuellement, que j'ai vu avant-hier, avec fermé pour cause de Covid, voilà.
Oui, alors moi je partage ce qu'il vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une espèce d'accoutumance et puis il y a d'autres priorités. Mais il y a d'autres priorités dans le moment où l'on parle.
Oui.
C'est-à-dire qu'en effet, il y a quand même une campagne présidentielle, il y a la guerre en Ukraine, tout ça fait que l'enjeu Covid passe un peu quand même au second plan, d'autant plus que le gouvernement avait quand même anticipé le relâchement des contraintes sanitaires il y a déjà maintenant quelques semaines. Mais rien ne nous dit si dans quelques semaines, voire dans quelques mois, à nouveau, on a une flambée du taux d'incidence, s'il y a un nouveau variant particulièrement contagieux, voire particulièrement dangereux, qu'on ne se retrouve pas dans une situation qui soit une situation que l'on a déjà connue par le passé. Moi, je pense que quand même, la vérité, c'est qu'il va falloir quand même apprendre à vivre avec un virus, parce que tout simplement, on ne peut pas être en permanence soumis à des situations d'exception qui font que la société s'arrête de fonctionner.
Regardez ce qui se passe en Chine, beaucoup d'auditeurs me disent le retour de flamme, Shanghai, Hong Kong n'affole personne.
Je ne suis pas sûr que le modèle chinois soit non plus, je veux dire, le modèle le plus adapté.
Non, mais c'est une question de virus. Je veux dire, s'il ferme, c'est aussi que le virus est peut-être plus virulent là-bas.
Peut-être, là-bas. Après, moi, je n'ai pas d'informations particulières.
Les écoles ferment là-bas et les choses se dégradent. Régis ?
Alors, pardon, oui, mais ils ont toujours eu cette approche, hein, c'est-à-dire zéro Covid, quoi. Alors que nous, contraints et forcés, on a eu une approche, on s'est dit peut-être immunité collective, bon, il y a eu vaccination de masse, etc. Eux, les Chinois réagissent très vite comme ça. Vous connaissez depuis deux ans, Valérie, mes positions, hein, je suis pro-vax, etc. J'étais pour des mesures sanitaires normales. Bon, j'ai entendu. Une réponse à votre question. Est-ce qu'on n'a pas levé les contraintes trop tôt? Elle a été posée à Olivier Véran. Il y a une remontée des contaminations. Est-ce qu'on n'a pas levé les mesures trop tôt? Il a répondu, oh ben regardez, dans les pays qui ne les ont pas levées, ça remonte aussi. Sous-entendu, les mesures ne servent à rien. C'était assez fabuleux. Hein. Bon, moi, je me prononce pas sur le fond, j'en sais rien. Hein, mais je trouvais ça assez étonnant. Et je partage l'opinion autour de cette table. Il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on en sorte. Bon, je veux dire, je vais pas faire comme Martin Blachier, puisque je suis boomer, en disant que c'est tout ça. Enfin, je veux dire, ce qui a été imposé à la jeunesse l'a été par des boomers qui voulaient absolument se protéger. Il n'empêche quand même que, je veux dire, il faut que cette société vive et respire d'ailleurs, et elle ne pourra pas faire autrement que de le faire en acceptant la présence de ce ou de ces virus.
Oui, tant qu'ils sont comme ils l'est aujourd'hui, c'est-à-dire avec une virulence, une dangerosité moindre. Maintenant, s'ils revenaient à être aussi dangereux que celui qu'il a été au début, il faudrait peut-être prendre d'autres mesures. Quelques précisions envoyées par l'excellente Juliette Rioufol qui travaille à mes côtés. Depuis le 18 mars, la période de réserve, c'est la période de réserve pour les ministres, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure. Dans le cadre de l'élection présidentielle, la période de réserve débute le 18 mars. Durant cette période, les membres du gouvernement doivent s'abstenir de tout déplacement dans l'exercice de leurs fonctions pour ne pas interférer dans la campagne. Et notre consoeur Françoise de Goy dit, dans une campagne normale, on parlerait de petits arrangements de l'exécutif avec les règles électorales, comme utiliser ses comptes officiels gouvernementaux pour faire venir les militants au meeting de l'aréna de Macron. Mais nous nageons dans le surréalisme.
Et sur les comptes sociaux, je suis d'accord, mais en fait, bon, le phénomène quand même des comptes sociaux, il est nouveau d'une certaine manière. Il date maintenant d'une dizaine d'années. Donc on est aussi face à. Non, mais le problème, c'est que. Est-ce qu'on a aujourd'hui, au regard de l'évolution des moyens de communication, des textes qui sont toujours adaptés par rapport à ce que l'on vit en termes de communication? Ça aussi, il faudra peut-être se poser la question un jour, ou l'autre.
Oui.
Alors, faisons un peu d'histoire, parce que c'est toujours la même chose. L'utilisation des comptes sociaux, c'est comme Marlène Schiappa utilisant les listings et le courrier de son ministère pour promotionner son bouquin.
C'est
vrai.
Raymond Poincaré, qui était président de la République, il écrivait
Twitter,
à sa mère tous les jours. Il écrivait à sa mère tous les jours. Il écrivait sur un papier qu'il achetait. Ouais. Il achetait le timbre et il allait lui-même personnellement le mettre à la poste pour pas que ce soit
le général de Gaulle.
Et de Gaulle, bien sûr. De Gaulle avec son compte EDF personnel.
Et d'ailleurs, peut-être une petite parenthèse, on en parlait hors antenne, 500 000 euros de patrimoine pour Emmanuel Macron, ça vous étonne?
C'est pas beaucoup pour un ancien banquier.
Pour un ancien banquier.
C'est pas beaucoup.
Régis,
c'est pas
beaucoup.
Vous avez vu.
Il devait être très dépensier. Voilà, c'est ce que je pense.
L'enquête de l'UMA.
L'enquête de l'UMA. Oui, c'est pas une enquête. Hein. Ils disent un copain d'un mec qui bosse pour Rothschild.
Oui,
donc
attendez,
c'est pas du journalisme, mais c'est des pistes.
Ce sont des pistes sur les trusts. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Valérie Pécresse et son mari, d'une certaine façon transparente, pour les stocks options d'Alstom. Mais effectivement, est cet argent? Où est-il passé? Enfin, on a quand même un gros problème.
Oui, ça n'intéresse pas grand monde non plus, mais c'est vrai que 500 000 euros pour un homme de 40 ans qui a été banquier et qui est nourri, logé à l'Élysée, ça paraît assez peu.
Et qui a touché une commission importante au moment où il était chez Rothschild. Et dès ce moment-là, il annonçait un patrimoine minuscule.
On voulait dire quelques mots de notre sondage quotidien Rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, et plus particulièrement sur ce second tour qui se sert. Alors encore une fois, Frédéric Dabi nous met en garde contre des évaluations de second tour qui seraient hasardeuses. Néanmoins, c'est encore une fois une photographie à l'instant T. 56% pour Emmanuel Macron, 47% pour Marine Le Pen.
53-47.
Oui, 53, pardon, là. C'est moi qui ai mal vu. 53-47. Bon. On est effectivement dans la marge d'erreur. Si c'était Jean-Luc Mélenchon, ce serait 41,5 face à 58,5. Oui, 42-58.
Frédéric a raison de mettre en garde. Oui. C'est vrai que les sondages second tour avant le premier, ça rime jamais à grand-chose. Oui. Cela dit, c'est quand même...
une tendance.
Ça signifie quand même quelque chose, ça révèle quelque chose, un effet de tassement pour Emmanuel Macron, qu'on voit quand même ces derniers jours. L'effet de drapeau joue moins pour lui, et une dynamique en faveur de Marine Le Pen, une dynamique de campagne qui joue en faveur de Marine Le Pen.
Il perd des points ces derniers jours, puisque l'effet drapeau, ce qu'on appelle l'effet drapeau par rapport à la guerre, est en train de s'estomper. Alors, moi j'ai comparé les sondages de premier tour, donc 10 jours avant l'élection. Il se trouve que le Rolling IFOP et puis deux autres donnaient exactement le résultat en 2017. Ouais. Mais avec deux nuances qu'il faut à tout prix apporter. La première, c'est qu'en 2017, l'abstention est évaluée à 20% et l'indécision à 15%. Oui. Là, on est sur une abstention qui pourrait dépasser 30% et surtout sur une indécision qui dépasse 30%. Donc, les lignes peuvent encore bouger et le pronostic est beaucoup plus compliqué. Si on prend les quatre dernières présidentielles, 2002, gros plantage des sondages, 2007, 2012, 2017... les sondages donnent le bon résultat, mais parce qu'il y avait peu d'indécision et qu'ils étaient juste sur le taux de participation. Là, Frédéric Dabi et d'autres concèdent même qu'il y a un grand flou sur le niveau de participation
d'abstention. La question de la participation, c'est toujours un vrai sujet, de toute façon, pour les institutions. Voilà. Ils ont énormément de mal à évaluer la participation. Voilà. Et donc, en effet, si la participation n'est pas à la hauteur de celle qu'ils ont prévue, tout leur échafaudage en termes d'estimation peut s'en trouver bouleversé. On l'a encore vécu il y a 6 mois avec les régionales. Mais moi, ce qu'il quand même faut noter, en effet, c'est que je suis d'accord. Hein, c'est-à-dire, le second tour, on remet quand même les compteurs à zéro. C'est important.
Oui, il y a le débat.
Mais ce qu'il faut noter quand même, moi je le dis depuis très longtemps, c'est que la candidature Le Pen est une candidature qui est quand même une candidature solide sociologiquement.
Oui.
C'est une candidature où on voit qu'elle mène une campagne où elle ne fait très peu de fautes en termes de communication, je ne parle pas du fond. Et troisièmement, elle sera beaucoup plus coriace dans un second tour, en tout cas si elle est qualifiée au second tour, qu'elle ne l'a été en 2017. Et donc ça, c'est quand même un point très important. C'est-à-dire que... Et puis alors, en effet, le dernier point, c'est que qu'est-ce qu'on assiste depuis 10 jours, à un tassement d'Emmanuel Macron dans les intentions de vote. Et d'ailleurs, quand on interroge les Français sur la guerre, on voit bien que c'est devenu une préoccupation qui passe au second plan. Opinion Noé, je crois, ou l'IFOP l'a montré, c'est-à-dire que la guerre n'est plus ce qui cristallise l'attention. Et la question fondamentale, c'est le pouvoir d'achat. Et là-dessus, force est de constater qu'elle l'a anticipé il y a très longtemps.
Et puis on peut ajouter un point, c'est qu'en 2017, les électeurs de gauche s'étaient quand même mobilisés pour Emmanuel Macron.
Oui.
Même si Jean-Luc Mélenchon n'avait pas clairement appelé.
Justement. Le Rolling IFOP est passionnant. Moi, je le regarde. Hein, Frédéric a raison. Il appelle l'attention sur le problème de l'abstention. Mais vous regarderez dans la livraison d'hier, ce qui est très intéressant, c'est les reports de voix. Alors, bien évidemment, ils sont évalués. Hein, et on s'aperçoit des déperditions pour Macron. Entre les deux tours, des déperditions importantes. Ceux qui ont fait castor en 2017 risquent en grande partie de s'abstenir. Abstention différentielle, c'est pour ça que les pronostics sont très difficiles, mais clairement, l'effet castor va jouer beaucoup moins.
Oui. Eh bien, merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est Philippe David que vous allez retrouver en lieu et place d'André Bercoff qui est en vacances. Voilà. À demain, et très bonne journée sur Sud Radio.